Et c'est le tout dernier numéro Studio Magique de cette semaine, de cette saison. C'est un vrai plaisir d'ailleurs que de le partager avec une invitée de notre région qui nous fait le grand plaisir de passer par les studios de Magique la Radio. Cette invitée, on la connaît tous, surtout comme étant la première dauphine de Miss France 2007, mais elle est bien plus que cela. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette émission. Cette invitée, c'est Sophie Vouzelot. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Merci beaucoup à toi d'avoir accepté notre invitation. Alors tu n'es pas venue toute seule, accompagnée de Davy Lacroix, compagnon de Sophie depuis 2005. On va saluer Davy également, bonsoir.
Bonsoir.
Davy qui se charge de la traduction évidemment pour nous. Merci à tous les deux d'être venus dans les studios de Magique la Radio pour ce dernier numéro Studio Magique. On va donc évidemment parler de ces trois années extraordinaires pour Sophie, avec un parcours phénoménal, beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a une actualité extrêmement riche. On va commencer par le commencement, avec une petite fiche d'identité. Sophie Vouzelot, 23 ans, née à Saint-Junien, le jour de l'été en plus, donc un anniversaire tout frais. Et puis cet handicap, bien sûr, sourde de naissance à 80%, je crois, si je dis pas de bêtises, et un parcours en tout cas qui prouve que l'on peut réussir, et très bien réussir même. Sophie, tu es membre de la Maison des Sourds de la Haute-Vienne, peut-être un petit mot sur l'association pour commencer.
Ah oui, bien sûr, l'association La Maison des Sourds de la Haute-Vienne, je suis très fier d'être ambassadrice, puisqu'au fait, je représente le handicap de la surdité. En fait, j'informe aux parents la possibilité de venir à cette association pour pouvoir découvrir la surdité, de mieux l'accepter par rapport à leurs enfants et de voir les différents combats qu'ils ont auprès de la mairie, etc., pour une meilleure accessibilité. La Maison des Sourds fait aussi un projet de création d'une école bilingue, en fait, et qui est la mixité entre les enfants entendants et les enfants sourds. Et j'espère que ce projet-là va se concrétiser à Limoges, puisque, en fait, cette association combat depuis très longtemps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui manquent d'informations sur la surdité, et c'est vrai que durant la scolarité, les enfants sourds auront du mal à comprendre les cours, et parfois, leurs méthodes pédagogiques ne sont pas très adaptées. Alors, c'est pourquoi, en fait, c'est important de cette création, de cette école bilingue, et ça permet aussi d'un autre côté, bon, c'est vrai que même la société évolue progressivement, mais rien n'est encore terminé. Il faut bien sûr développer l'autonomie pour ces enfants pour qu'ils puissent avoir une meilleure vie par l'avenir.
Alors, c'est un vrai combat évidemment que tu mènes hein, depuis toutes ces années, et surtout depuis que tu as cette médiatisation, cette notoriété, tu t'en sers effectivement pour aider les personnes sourdes et surtout leur intégration dans la vie quotidienne. On va en parler avec toi tout au long de cette émission. La surdité, c'est évidemment un handicap qui coupe beaucoup du monde. Du coup, je crois que c'est ta maman, toi, qui t'a poussé, qui a tenu à ce que tu rencontres d'autres sourds très jeunes. C'était à l'âge de 7 ans. Et pour rester sur l'univers des enfants, comment s'est passée ta scolarité à toi? Ça n'a pas forcément été évident. Ça s'est mieux passé, d'ailleurs, dans tes premières années que par la suite?
Oui, en fait, durant ma scolarité, en fait, j'étais en intégration. Bon, c'est vrai qu'au départ, ça a été très, très dur. Bon, déjà lire sur les lèvres à ma maîtresse, bon, c'est vrai qu'elle est très gentille, elle essaie de s'adapter à moi, mais bon, c'est vrai que gérer une classe de 25 élèves, c'est pas toujours évident, et bon, parfois elle résume un peu ses cours, et puis ultérieurement, bien sûr, je reçois des critiques de mes camarades, mais qui leur manquent d'informations, mais au fur et à mesure du temps, je commence à prendre l'habitude, mais bon, d'un autre côté, je prends moins plaisir d'aller à l'école, puisque à chaque fois, je sais que je vais me faire critiquer, en plus que je dois faire des efforts, et donc c'est pourquoi ce serait important d'avoir une meilleure information, un meilleur parcours professionnel.
Alors, ce qui a posé problème, c'est que les enfants finalement étaient mal informés, et c'était s'ils ont été un petit peu durs avec toi, voilà, c'est parce qu'il y avait ce manque d'information de leur part et de la part des parents tout simplement, qui eux-mêmes n'étaient peut-être pas informés d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, c'est important de les informer. Et bon, je vais pas culpabiliser les enfants, mais bon, c'est vrai qu'eux, ils trouvent que c'est quelque chose d'original de voir un handicap parmi les autres dans l'école. Ils avaient tendance à me considérer comme des extraterrestres, mais etc. Mais bon, alors que nous sommes des personnes comme tout le monde.
Alors du coup, t'as consacré beaucoup de temps forcément au travail, il fallait que tu travailles deux fois plus, hein, à la fois pendant les cours, mais aussi une fois que tu rentrais à la maison. Il y a eu beaucoup moins de temps pour tes loisirs, comment ça s'est passé? T'as eu la sensation quand même, quand t'étais jeune, de pouvoir t'épanouir? Je crois que tu faisais du karaté à l'époque, que t'as eu un peu de regret d'abandonner. T'avais quand même le temps de faire autre chose que le travail?
Oui, au fait, au moment quand j'étais à l'école primaire, je faisais du karaté, et c'était ma passion. Et dès que je suis rentré au collège, je me suis rendu compte qu'il y a d'énormément de boulot à faire et que je ne pourrais plus pratiquer le karaté. C'est vrai, c'est un énorme regret, puisque j'aimerais bien, en fait, peut-être, si à l'heure actuelle je continuerais toujours, je serais beaucoup plus forte. Mais bon, il fallait bien que je me consacre à ma scolarité.
Donc une Miss ceinture noire de karaté, c'est encore possible alors?
Oui, c'est vrai, ça aurait été un rêve, mais bon, tant pis.
Après l'écharpe, la ceinture, on verra ça, on suivra tout ça dans l'avenir. Il y a eu les études supérieures, évidemment, après. On a tendance à se dire que, justement, tes camarades étaient plus vieux, donc allaient comprendre un petit peu mieux ton handicap. Et pourtant, ça a été peut-être encore plus compliqué pour toi. Il y a eu vraiment des gros problèmes d'intégration, parce que c'était pas adapté non plus pour toi et pour te permettre de travailler, de suivre le rythme comme tout le monde.
Oui, en fait, dès que je suis rentré au lycée à Limoges, en vrai, ça a été vraiment dur aussi. Au moment du BEP de comptabilité pour atteindre le niveau bac professionnel, en fait, dans ma classe, le professeur ne voulait pas que m'adapter à ma situation, puisque lui-même, il pensait que je ne faisais pas des efforts, etc. Alors que souvent, j'étais en manque d'informations et même mes camarades de classe ne m'aidaient pas et je me sentais discriminé par rapport aux autres et tout. Et alors que tout le monde avait conscience de mon handicap, de ma surdité, mais bon, en résumé, ça s'est mal passé et je trouve ça méchant.
Et en même temps, pas trop de regrets, puisque la comptabilité, c'était pas forcément ta voie. T'avais finalement choisi ce secteur-là parce qu'il fallait faire quelque chose et qu'on savait pas trop non plus vers quoi te diriger. C'était un choix résigné, en quelque sorte.
Oui, c'est vrai, je n'avais pas le choix, puisque au collège, en fait, moi, ce que je souhaitais, c'est d'aller dans un lycée général. Et certaines personnes m'ont demandé que tu ne peux pas aller dans ce lycée général puisque tu es sourde. Alors moi, je pense que comme tu es forte en maths, alors ça serait bien que tu te diriges vers un BEP comptabilité. Et donc, je les écoutais, et puis finalement, je me suis fait avoir. Il fallait pas que je les écoute. En fait, mon rêve, c'est d'être mannequin, d'être Miss et actrice. C'est vraiment mes rêves sont déjà réalisés et si vraiment je n'avais pas fait ma carrière de Miss, je n'aurais pas pu faire tout ça.
Alors en même temps, t'as arrêté ce circuit comptabilité en 2006, et 2006, c'est la grande année pour toi, puisque c'est cette année qui t'a permis de croiser la route des élections de Miss avec le très joli succès que l'on te connaît. On va marquer une petite pause ensemble dans cette émission, pause musicale, et puis justement, ensuite on va rentrer dans le cœur de l'actualité de ce qui est sans doute la partie la plus connue du grand public, élection de Miss France, auparavant les élections régionales ici en Limousin, et puis bien sûr nous parlerons de toute ton actualité qui est très riche, c'est dans un instant sur Magique la Radio. À tout de suite, Sophie. Et nous sommes toujours en compagnie donc de Sophie Vouzelot, notre première dauphine Miss France 2007 et beaucoup d'autres choses, on l'a déjà évoqué hein, depuis le début de cette émission. Nous sommes encore avec Sophie jusqu'à 19h en compagnie de Sophie et de son compagnon Davy qui se charge de la traduction évidemment pour nous, et on le remercie. On s'est arrêté ensemble en 2006 tout à l'heure avec donc ces études de comptabilité que tu n'avais pas vraiment choisies et qui ne se sont pas très bien passées, donc tu décides de mettre un terme à tout ça, et justement c'est en février de cette même année 2006 que tu vas commencer à croiser la route des élections de Miss, et je crois que c'est encore passé par ta maman Hélène, c'est elle qui t'a finalement conduit un petit peu à rentrer dans ce monde des sourds et à voir qu'il y avait beaucoup de gens dans ta situation pour mieux le vivre. Et en 2006 elle te dit, eh ben il y a une élection de Miss qui se prépare, c'est l'élection de Miss Limoges, et tu t'es laissé tenter par l'aventure. C'était une vraie envie, comment ça s'est passé?
Oui, en fait, c'est vrai, c'est grâce à ma mère qui m'a forcé de participer à cette élection. En fait, au départ, je refusais catégoriquement. Peut-être parce que j'étais adolescente ou parce que j'étais sourde. Et le monde des Miss, j'étais pas très très informé. Mais bon, c'est vrai que d'un côté, j'ai une hésitation entre le souhait de devenir mannequin, etc. Et elle m'a tellement forcé qu'elle m'a convaincu au bout de 3 heures. Et donc, finalement, j'y ai participé. J'ai été élue en tant que première dauphine de Miss Limoges. J'étais vraiment émue et très contente. En fait, j'adore être en contact avec les gens et aussi de militer pour une cause, pour faire développer l'accessibilité, etc. Et finalement, c'était la bonne voie.
Et puis, ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'il y a donc eu Miss Limousin. C'était l'étape suivante. C'est le public, finalement, c'est les gens que tu as rencontrés qui t'ont poussé à poursuivre cette aventure et à te présenter dans cette élection régionale, cette fois.
Oui, c'est vrai, au moment de l'élection, en fait, je ne pouvais pas croire que j'avais ma première place. J'étais encore impressionné et sous le choc. Et le public me soutenait énormément. à cette élection, je me rappelle, c'était vraiment un grand tremplin. Puis qu'au fait, je leur remercie beaucoup, le public, de m'avoir soutenu. Et si, c'était grâce à eux que je suis encore là à l'heure actuelle et très médiatisé. C'est vrai que je remercie mes amis, ma famille, tous mes proches de m'avoir tous soutenu. Et c'est vrai qu'on a connu des situations, des hauts, des bas, mais comme quoi ils nous soutiennent toujours. Et c'est vrai que je profite de ma notoriété en tant que ministre pour faire développer la cause pour le handicap de manière générale. Et c'est vrai que bon, il y a une phrase, un dicton que je le dis souvent, si tout est accessible, le mot handicap disparaîtrait.
Voilà, justement, c'est qu'on aurait pu croire que ton handicap allait te couper du monde, et finalement, grâce à ces élections, tu t'es rendu compte que non, au contraire, ça allait te permettre de te faire entendre et de pouvoir mener ce combat, et c'est ce que tu n'as pas arrêté de faire d'ailleurs depuis 2006. Alors évidemment, on ne peut pas faire autrement que d'évoquer la consécration. C'était en décembre de cette année 2006, l'élection de Miss France et ton titre de première dauphine. On rappelle au passage quand même que le public, lui, t'avait élu Miss France carrément. C'est vrai que c'est au niveau du jury, il t'a manqué une voix pour accéder à ce titre-là, mais je crois qu'il n'y a pas eu de déception finalement pour toi. Tu préfères ce rôle de première dauphine que celui de Miss France, puisque tu as la notoriété sans avoir eu peut-être le tourbillon médiatique qui t'aurait empêché, qui aurait un peu pris le pas sur le combat que tu mènes.
Oui, en fait, j'étais surprise sur place. En fait, je voulais pas être élue Miss France. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut vivre à Paris, je verrai moi, ma famille, et auquel je les tiens énormément. Et en plus, j'étais très satisfaite de ma deuxième place. Bon, certains disent c'est rien du tout, première dauphine. Au contraire, moi, c'est un grand plaisir. C'est vrai, j'ai été médiatisée, je suis très heureuse que les gens me font confiance, et même certaines personnes ont accepté mon handicap, ma surdité, qui ont tendance à changer leur regard, et je leur remercie de m'avoir fait confiance et de me laisser combattre, défendre la cause. Et c'est vrai que grâce aux médias, je pourrais faire passer le message pour faire développer la cause, et c'est vraiment un moment formidable. Ce qui est surprenant, en fait, c'est depuis 3 ans, en fait, j'ai été élu, et aujourd'hui on en parle encore. De manière générale, la première dauphine, on en parle très peu dans la première année et après on l'oublie, mais là encore 3 ans passés, on en parle encore de moi, et c'est fabuleux. C'est pourquoi je continue à me battre pour défendre la cause.
Alors justement, pour refermer ce chapitre Miss France, évidemment, un mot sur tes souvenirs d'une manière générale, les bons et les moins bons. Visiblement, voilà, t'as été surprise, il y a eu de bonnes choses, et puis t'as quand même été confrontée sans doute à des petits soucis. Par exemple, lors du voyage, je crois que t'avais fait à l'île Maurice avec toutes les autres candidates, voilà, tu t'es retrouvée confrontée à ces mêmes problèmes éternels, finalement, un peu isolée, notamment au moment où toutes les filles parlent entre elles. T'as senti que t'étais un petit peu à part, malheureusement.
Oui, c'est vrai, c'est au moment du voyage, en fait, c'est un moment où j'ai un peu souffert, même le petit déjeuner, au repas du midi ou du soir, c'est vrai, c'est dur, c'est entre groupes, toutes les filles, toutes les candidates rigolent entre elles, alors que moi, je ne comprends pas, il y a certaines misses qui font des efforts et qui essaient de m'expliquer la blague, mais bon, la blague va de manière réduite et moins marrante, et donc, qu'est-ce que je fais entre-temps, ben, j'utilise mon portable et j'envoie des SMS à ma famille, mais bon, parfois, il y a des moments où je m'ennuie, que je m'isole un peu, et donc vraiment passer 3 semaines avec eux, c'était vraiment galère, hein.
Ça a été dur, mais ça valait le coup, puisqu'au final, donc, tu as ce titre de première dauphine de Miss France 2007, Rachel Legrain Trapani, on rappelle à l'époque. On va parler dans un instant, évidemment, de ton actualité, et puis surtout du combat que tu mènes. On va s'intéresser plus largement à ce combat que tu mènes pour l'accessibilité des personnes sourdes dans notre société. C'est ton objectif, et simplement sur les toutes premières semaines qui ont suivi ton élection, il y a eu vraiment un impact extraordinaire. Je crois que tu t'attendais vraiment pas à ce que non seulement on s'intéresse à ton titre de première dauphine, mais surtout qu'on s'intéresse à ce problème de la surdité et qu'on te donne aussi vite, peut-être, et aussi fort la parole et le moyen de t'exprimer sur ce combat.
En vrai, juste avant, en fait, de l'élection, je souhaitais, en fait, m'exprimer oralement et en langue des signes pour que le public entier puisse bien me comprendre. Et certaines personnes disent, un technicien m'avait dit que je ne pouvais pas parler au micro puisque la voix n'était pas adaptée et que ça ne pouvait pas s'enregistrer. Et donc, il fallait que je m'exprime en langue des signes. Et sur place, en fait, dès que j'ai vu qu'il y a eu des problèmes d'interprétation, et alors que moi, au fond de moi, je voulais faire passer le message, je suis pas venu uniquement pour représenter ma beauté, mais j'ai aussi voulu montrer mes souhaits et mes projets et mon intelligence. Et vu qu'il y a des problème de compréhension. Alors j'ai tout de suite demandé à Jean-Pierre Foucault, de l'animateur, à ce moment-là, de me faire passer le micro. Et moi, je me suis exprimé. Et bien sûr, au fond de moi, j'avais une colère de cette, comment dirais-je, de problème d'inaccessibilité. Et donc, quand, le fait, une fois que je me suis exprimé au micro, et là, ça m'a fait un grand bien et de pouvoir leur faire comprendre aux Français mes projets, mon combat sur l'accessibilité. Et là, dès que tout le monde a été ému et il avait écouté mon message, ils ont tout de suite voté pour moi. Après l'élection, beaucoup de personnes m'ont sollicité pour savoir quels sont mes combats sur l'accessibilité. Et donc, bien sûr, j'avais parlé du message sur le sous-titrage télévisé.
Voilà, notamment, qui est effectivement un gros problème. Et c'est vrai que c'est un souci qu'on a tendance à... Il y a un amalgame qui a tendance à se faire entre personnes sourdes et personnes muettes. Hein. Une personne sourde peut s'exprimer, mais on a tendance à se dire « Bah non, elle ne s'exprimera pas exactement comme nous, alors on lui donne pas le micro et puis elle va passer par la langue des signes. » Ce qui est un peu frustrant pour toutes les personnes sourdes. Et ça, c'est aussi un de tes combats, de dire laissez les sourds s'exprimer, ils ont la parole.
Oui, c'est vrai, les personnes sourdes ont le droit d'expression. J'ai dit déjà, les devises de la République, c'est la liberté d'expression. Donc déjà, le fait d'empêcher la possibilité de t'exprimer. Et donc, non, c'est vrai qu'une fois que j'ai pris le micro, j'ai pu m'exprimer. Et bien sûr, j'ai toujours... J'ai toujours le feu au fond de moi, la nervosité de ne pas pouvoir s'exprimer.
Le micro, tu l'as pris, tu ne l'as pas lâché en tout cas. Et on va en parler dans une seconde, dans la deuxième partie de cette émission, où on va vraiment s'attarder sur le combat que tu mènes. Et puis on parlera en toute fin d'émission des aspects un peu plus légers. Qui est Sophie Vouzelot, notamment dans tes loisirs. On parlera également de ton actualité, qui est extrêmement riche entre livres, télévision, cinéma, des voyages. Tu étais il y a encore quelques jours en Corée du Sud. On va voir ça ensemble dans la toute dernière partie de l'émission. À tout de suite. Et deuxième partie de cette émission, compagnie de Sophie Vouzelot, mais également de Davy, je rappelle, hein, compagnon de Sophie, qui nous fait gentiment la traduction pour cette émission. Et on va parler ensemble pour la deuxième partie de ce rendez-vous de ton combat, Sophie, ce combat pour l'accessibilité des personnes sourdes dans notre société. Justement, d'une manière générale, pour commencer, un petit bilan, est-ce que ça progresse en 2010? Est-ce que tu as l'impression que les choses changent et qu'on fait un petit peu plus attention, qu'on prend un peu plus en compte les personnes sourdes au quotidien?
Oui, bien sûr. Il y a d'énormes progrès, en fait, grâce déjà au sous-titrage télévisé, mais ensuite au niveau de l'emploi pour les personnes sourdes. Je trouve que c'est mieux par rapport en 2005. Bon, c'est vrai que d'un côté, c'est grâce à la loi du 11 février 2005 que ça a permis aussi d'échanger d'évoluer les choses. Mais aussi, quand j'étais devenu ambassadrice du Crédit Agricole, de l'écart handicap emploi du Crédit Agricole, et au fait, nous sommes basés sur une philosophie d'embaucher des personnes handicapées, non pas en fonction de leur handicap, mais en fonction de leurs compétences. Et au fait, le handicap permet aussi de faire développer une intelligence, une compétence qui peut être tout à fait complémentaire que la société ne l'a pas. Et c'est ça que j'encourage à toutes les entreprises d'embaucher.
Alors, ce qui est important pour toi, justement, c'est ça, c'est qu'il n'y ait pas l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on ne s'apitoie pas sur une personne sourde, par exemple, en lui disant, on va la privilégier par rapport à un autre. C'est vraiment de se dire, regardons les gens à égalité de compétences, et sourd, pas sourd, peu importe, mais que chacun ait les mêmes chances, que ce soit face au travail ou à d'autres, dans d'autres secteurs.
Oui, c'est effectivement cela. Et mon objectif, c'est voir en fonction de la compétence. Et il y a beaucoup de personnes qui voient en fonction de l'handicap, qui ont tendance à préjuger, à voir que ces personnes-là ne correspondent pas à la normalité de la société. Mais non, en fait, moi, ce qui est important, c'est de voir la compétence de la personne. Bien sûr, la personne a une beauté intérieure. Il ne faut pas tout de suite préjuger les choses. Il faut avoir du temps d'harmoniser, de pouvoir discuter avec la personne, et finalement on va se rendre compte qu'elle a une compétence que nous n'avons pas vue sur le champ.
Alors les choses ont évolué, tu l'as dit, fort heureusement, il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens. Malheureusement, on n'est pas dans le monde de Walt Disney, donc tout n'est pas encore merveilleusement réglé. Qu'est-ce qui coince le plus encore aujourd'hui? Dans quel secteur? Ou est-ce que c'est quoi? Les administrations? Plutôt les commerces? Qu'est-ce qui pose encore le plus de problèmes aujourd'hui?
En fait, les problèmes, c'est un peu partout, puisque Déjà, bon, par rapport au monde des personnes sourdes, en fait, c'est un problème de communication. Alors, on a du mal à développer l'autonomie. Alors, une fois rentré dans une administration, on est obligé de prendre un interprète ou de prendre quelqu'un qui a connu des bases de la langue des signes, etc. Bon, c'est vrai que j'ai remarqué depuis mon élection, il y a vraiment une progression de cours de langue des signes. Et beaucoup de gens sont fascinés par cette langue. Je suis très satisfaite de voir cette progression, de voir ce besoin, mais bien sûr nous avons besoin des interprètes, et parce que exemple dans le Limousin nous n'en avons qu'un seul pour trois départements, et vous voyez on a faut prendre rendez-vous très bien à l'avance pour un interprète, et donc voilà, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile. Deuxième problème, les appels d'urgence. Comment peut-on appeler les secours le plus vite possible? Alors là aussi, c'est un deuxième problème d'accessibilité, que ce soit la police, le gendarme ou les pompiers. Alors nous sommes obligés d'appeler nos voisins ou quelqu'un de passage qui peut téléphoner. Alors ça peut faire perdre du temps. Alors un autre problème encore par rapport à la télévision, du manque du sous-titrage. Donc là, bon, bien sûr, c'est tout en progression. Et puis bien sûr, au niveau de l'emploi, du travail, les personnes sourdes sont très satisfaite d'être embauchée, puisque l'entreprise souhaite bien sûr embaucher les personnes handicapées. Mais est-ce qu'il y a vraiment le confort dans son travail? Est-ce que à l'intérieur, au sein du groupe, d'autres collègues souhaitent apprendre la langue des signes, ou est-ce qu'il y a vraiment tous les besoins adaptés? Et ça, c'est une grande question.
Oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors c'est vrai que ce soit toi ou Davy, vous rencontrez beaucoup de gens hein, tout au long de l'année pour expliquer ce combat, essayer de faire avancer les choses. Tu parlais de la télévision par exemple et du sous-titrage. On sait que tu es ami avec Jean-Luc Reichmann, qui a sa sœur qui connaît le même problème que toi, qui est un peu ton porte-parole peut-être pour faire sous-titrer, évoluer le sous-titrage à la télévision, notamment sur TF1. Tu rencontres avec Davy aussi beaucoup de personnalités politiques. Là encore, t'as l'impression que t'es entendu, que ton message en tout cas retient l'attention et que t'es prise en compte dans ton combat au plus haut niveau, en tout cas de l'État.
C'est vrai, je remercie beaucoup, au fait, d'abord PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, et aussi Jean-Luc Reichmann de m'avoir soutenu pour mon combat. Je le remercie énormément. Bien sûr, je reste en contact avec eux pour faire évoluer les choses. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'État, en fait, prenne en compte, aider le monde de l'handicap. Il n'y a pas assez d'aide. Bon, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail, mais les personnes handicapées, ils ont besoin d'égalité de chance, d'avoir accès à tous les domaines. Que l'État verse un fonds pour faire développer les choses, c'est aussi important. Au fait aussi que l'État prenne des mesures d'information pour rapport au handicap, aussi faire développer les services d'interprète pour les personnes sourdes, etc. Vous voyez, il y a tout un travail à faire avec le gouvernement. Bon, c'est vrai, il y a une chose que j'avais oublié de vous informer. Bon, par exemple, que ce soit dans une école ou dans un bâtiment ou dans une administration, bon, c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de passerelles pour réserver aux personnes en fauteuil roulant et tout. Au niveau de la sécurité, il manque encore des appels visuels et sonores pour voir qu'il y a un incendie dans un bâtiment et tout. Et je vous informe que je suis ambassadrice de Samsung, donc je collabore avec eux, au fait. Samsung, qui souhaiterait que je choisisse les associations sourdes cette association me fasse un dossier qui m'explique leurs besoins, que ce soit une télévision, une caméra ou un portable ou un ordinateur, et que Samsung en fait leur offre des matériels nécessaires adaptés. Et c'est pourquoi, par l'intermédiaire de Samsung, j'encourage les associations à développer leurs actions.
Effectivement, et on peut en féliciter toutes ces entreprises qui se mobilisent et qui effectivement essayent de participer à l'avancée des choses avec toi. Concrètement, tu disais tout à l'heure que c'était la loi de 2005 qui avait bien fait évoluer quand même les choses au niveau de l'accessibilité. Toi, tu as mené des combats personnels. Est-ce que tu as obtenu des choses personnellement, voilà, des combats qui te tenaient à cœur et que tu as réussi à faire aboutir depuis ton élection?
Oui, par rapport au sous-titrage télévisé, c'est vrai que depuis l'élection et le mois d'avril d'après, tout de suite, il y a le sous-titrage sur TF1 avec PPDA et après, progressivement, je vois dans différentes chaînes télévisées, il y a beaucoup de sous-titrage. Alors vraiment, c'est voilà toute une ouverture d'information, une ouverture d'accès à la culture, à l'information et tout. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, maintenant, le problème, c'est la qualité du sous-titrage. C'est vrai que parfois, on rencontre des maladresses, des problèmes de traduction ou des problèmes de correction d'orthographique, etc. Donc, ouais, il y a tout encore un travail de qualité à l'intérieur. Mais bon, on est très content de voir que plein de gens changent le regard vis-à-vis de l'handicap et qu'ils commencent à accepter et qu'après, facilement, on pourrait combattre sur l'accessibilité.
Alors, les choses se font petit à petit, effectivement, et on va dans le bon sens. Pour terminer sur ce grand chapitre de ton combat, un mot sur la place du Limousin, sur l'accessibilité, ces problèmes d'accessibilité. La région est plutôt un bon élève ou on a plus de difficultés qu'ailleurs?
En fait, le Limousin, je pense que le plus dur, c'était le cinéma. Puisque, en fait, le cinéma, voilà, on a déjà rencontré le directeur. Bon, c'est vrai que, mon message n'a pas été très bien comprise. Et, le directeur lui-même dit que c'est très coûteux de mettre en place le sous-titrage dans les films. Et ce qui m'impressionne, c'est qu'en fait, le directeur de Saint-Junien, lui, il souhaitait, au fait, mettre en place cette accessibilité et il fait tout pour mettre en place. Et d'ailleurs, ça va se passer très bientôt et il souhaite organiser avec la Maison des Sourds en invitant toutes les personnes sourdes à se déplacer à Saint-Junien pour voir des films sous-titrés. Vraiment une petite ville qui est capable de faire ça. Je remercie énormément ce directeur d'avoir pu engager cette initiative. C'est vrai que partout en France, il manque d'accessibilité au cinéma. C'est vrai, moi-même, j'ai toujours aimé d'aller au cinéma et quand on veut aller voir un film au cinéma, on est obligé d'aller à Paris, se déplacer, donc on paye le transport, etc. Ou alors d'attendre la sortie du DVD qui soit sous-titré. Et donc, vous voyez, certaines personnes, vous voyez, ils sont en retard culturel par rapport à la société et c'est qui est vraiment bien dommage. Une fois que je leur ai expliqué que le directeur de Saint-Junien souhaite mettre en place le sous-titrage dans son cinéma, il y a beaucoup de personnes sourdes qui ont pleuré de joie de voir cette accessibilité et sont impatientes d'y assister à ce moment-là.
Donc on espère que cette première initiative sera suivie de toutes les autres et que toutes les communes de notre région penseront à faire ce geste qui effectivement coûte de l'argent, mais c'est aussi pour le confort de toutes les personnes sourdes qui sont dans notre région, qui ont déjà beaucoup de difficultés. Voilà, si on peut leur permettre d'avoir ce loisir cinéma, c'est extrêmement important. Donc on espère que le message sera passé et que tous ceux qui nous écoutent, responsables de salles, pourront t'entendre. Simplement, on termine avec, on a parlé du Limousin et de la qualité de cette accessibilité. D'une manière générale, sur notre pays, toi qui as parcouru les villes de France et qui as pu comparer avec ce qui se passait à l'étranger, tu as la sensation que là, la France est plutôt bien placée, plutôt sensible aux problèmes, ou que c'est un peu à l'image du Limousin, qui a encore beaucoup de choses à faire?
Oui, en fait, une fois quand je suis allé en pays étranger, en Corée, en mois de mai, c'est vrai, je suis venu pour la traduction, pour mon livre, en fait, qui a été traduit en coréen. En fait, il y a certaines personnes coréennes qui ont décidé de me filmer, de me faire un reportage sur toute ma carrière. Et puis encore d'autres personnes qui ont souhaité m'interviewer, etc. Et donc, en fait, j'ai été invité dans ce pays. Et donc, j'étais très, très contente. Et donc, j'ai encouragé, je sponsorisais mon livre, etc. Et en fait, c'était pour leur montrer par rapport à l'accessibilité du monde de l'handicap. Et effectivement, une fois que je suis arrivé là-bas, j'ai vu qu'il y a vraiment un retard important, et je suis même allé à l'Assemblée nationale de rencontrer des députés, et c'est pourquoi ultérieurement on va travailler ensemble pour vis-à-vis de la France, faire développer l'accessibilité en Corée.
Que ne soit pas en retard, voilà, que tout le monde puisse progresser. En tout cas, on va marquer une dernière pause ensemble dans cette émission, et puis on va finir ce rendez-vous Studio Magique, le dernier de la saison, avec toi, sur des choses un peu légères. Bien sûr, on va parler de cette actualité, la Corée, le cinéma également, puisqu'on a eu le plaisir de te voir sur de grands écrans il y a quelques jours encore. Le film est d'ailleurs encore à l'affiche dans certaines salles du Limousin. On voit ça ensemble, et puis on aura un petit cadeau d'ailleurs pour nos auditeurs. Ce sera dans la dernière partie de cette émission. À tout de suite. Et dernière partie de cette émission, toujours en compagnie donc de Sophie Vouzelot, un grand merci d'être avec nous encore quelques minutes, en compagnie également de Davy, ton compagnon qui nous accompagne et qui assure la traduction. Donc merci à toi Davy également. On va parler de choses un peu légères puisqu'on a beaucoup parlé de ce combat que tu mènes et qui est extrêmement important, et on espère avoir participé à ce que tu sois entendu et à faire progresser les choses bien sûr. Mais donc dans ton actualité, il y a énormément de choses. Alors, en premier lieu, ça date un petit peu maintenant, mais c'est toujours au cœur des envies des gens, c'est ce livre que tu as écrit, Miss et Sourde, aux éditions Le Duc. On aura d'ailleurs une petite surprise en fin d'émission pour nos auditeurs. Simplement, c'était important pour toi d'écrire, de raconter ton histoire, peut-être pour aider les autres personnes sourdes à voir qu'on peut s'en sortir, à donner des chemins et des pistes.
Oui, c'est vrai que ce livre, bon, en fait, je vous raconte une petite histoire. Dès mon élection de Miss France, le lendemain, il y avait des maisons d'édition qui souhaitaient que je fasse une autobiographie. Moi-même, bon, au début, j'ai refusé. Je dis, bon, je ne m'attendais pas. Et au bout d'une année passée, avec plusieurs rencontres de personnes, finalement, on me pose beaucoup de questions vis-à-vis de ma surdité, de mes problèmes d'handicap, d'accessibilité, etc. Alors, finalement, j'ai dit, mais elle au fait d'écrire un livre, pourquoi pas, c'est pour faire passer le message, répondre à leurs besoins. Et donc une fois que j'ai écrit ce livre, et je ne regrette pas de l'avoir écrit, et ça fait passer un message très important, et beaucoup de personnes ont changé de regard, ont surtout m'envoyé des mails de remerciements, etc. Et c'est vraiment fabuleux.
Alors, dans ce livre, tu racontes ta vie. On va faire la partie people, attention, de cette émission. Davy est là, donc c'est sous son contrôle, on peut y aller. Vous êtes en couple tous les deux depuis 2005. Je crois que c'est aussi quelque chose qui, évidemment, a pu t'aider, puisque Davy est professeur de langue des signes, donc c'est important pour la communication et de permettre d'accéder peut-être au plus grand nombre au niveau de la communication. Mais je crois que ça a été un peu difficile, notamment au niveau de ta famille. Il y a eu une inquiétude peut-être au départ quand tu as annoncé cette histoire avec Davy. Deux personnes sourdes, on se dit, est-ce que c'est pas enfermé dans une petite bulle, au contraire, au lieu de s'ouvrir vers les autres. Je crois que maintenant les choses se passent plutôt bien, a priori, avec Hélène et ton papa.
Oui, c'est vrai, durant toute mon enfance, j'étais enfermé dans une bulle, j'avais peur, bon, je me protégeais de moi-même, et bien sûr aussi, j'étais en manque d'informations de la société, il y a qu'est-ce que réellement la vie, et donc j'avais des brèves informations, et donc j'étais en gros en retard, et une fois arrivé à l'adolescence, bon, j'avais des amis qui me demandaient de sortir, de rencontrer des associations sourdes, et donc je suis allé les voir et j'ai commencé à m'ouvrir les portes et à découvrir la vie, hein, en résumé. Et puis après, j'ai commencé à me rattraper au niveau de l'information, et tellement j'étais assoiffé que j'ai rencontré Davy et je me suis mise avec lui, et j'ai vu qu'il n'avait pas l'habitude de voir la vie comme elle est. Et maintenant j'ai tendance à avoir l'habitude.
Non, ça, il va rougir, hein, donc faut pas trop en dire. Davy, qu'est-ce qui t'a fait craquer quand tu l'as rencontré?
Ben moi, ce qui m'a fait craquer, ben déjà, c'est sa beauté intérieure. Que moi, je l'avais pas vue en tant que Miss, moi je la voyais en tant que Sophie, la Sophie que j'aimais. Donc je voyais sa beauté intérieure qui me fascinait, il y avait une perle rare, elle avait quelque chose qui m'attirait au fond de moi. Et donc finalement, une fois que j'ai fait ma demande d'être avec moi comme tous les hommes le font, elle avait hésité, et puis qu'elle ne pensait pas à vivre avec moi, et finalement elle a accepté, et au bout de 5 ans, maintenant ça fait 5 ans qu'on nous sommes ensemble, et 5 ans on a vu des choses formidables, bien sûr, comme tous les couples, nous avons eu des hauts, des bas, mais c'est toujours un plaisir d'être avec Sophie, et j'espère terminer ma vie avec elle.
Et vous menez un combat ensemble d'ailleurs, parce que tu es toi aussi un porte-parole extrêmement important pour cette cause des sourds, tu démènes, tu vas souvent à Paris pour voir les politiques, notamment pour mener ce combat. C'est peut-être votre force, justement, d'être tous les deux concernés par ce problème.
Oui, c'est vrai. En fait, nous avons chacun notre position. En fait, Sophie, en tant que personne médiatisée, donc elle a fait combattre la cause. Et moi, en tant que président d'une association, la Maison des Sourds, que moi aussi, je mène mon combat de manière politique de ma région. Et parfois, je monte à Paris, effectivement, rencontrer des politiciens pour modifier les décrets de loi, de la loi du 11 février 2005. C'est vrai, c'est tout un travail tout à fait complémentaire. Moi, je pense que de mon côté, on avance très doucement, puisqu'on est en train de se bagarrer sur des textes de loi, alors que grâce à la médiatisation de Sophie, on pourra y accéder facilement.
Les portes sont plus grandes ouvertes grâce à la médiatisation de Sophie et les combats peuvent être menés peut-être plus facilement et ça c'est un gros point positif. On parlait des voyages tout à l'heure avec Sophie, donc ce voyage en Corée du Sud notamment. Comment tu perçois, Sophie, cette curiosité, en tout cas, que tu suscites cette... Alors, il y a ton sourire, évidemment, qui font que les portes sont grandes ouvertes, on l'a dit tout à l'heure, mais comment tu perçois cette envie que les gens de te recevoir, de te parler, voilà, te donner la parole jusqu'au bout du monde, finalement, parce qu'on peut comprendre qu'en Limousin ou en France, on soit intéressé par ton combat, mais que comme ça, des Coréens aient envie de t'inviter, de traduire ton livre, c'est des choses quand même qui sont conséquentes.
Oui, c'est vrai, j'étais impressionné que les Coréens sont intéressés à ma vie. Et donc moi, quand je suis arrivé en Corée, j'ai rencontré des écoles sourdes. Et comparé en France, moi, je les trouve plus dramatiques, plus affreuses. Puisque, en fait, eux, les Coréens, en fait, ils ne peuvent pas lire une miss handicapée ou une miss sourde. Alors que par rapport en France, on était plus ouverts. Et puis, c'est vrai que les Coréens sont très respectueux, mais le problème, c'est l'handicap. Alors, quand j'ai rencontré les enfants sourds, ils ont été très, très contents de me voir. Bien sûr, on se communique en langue des signes, de manière basique. Mais beaucoup d'enfants sourds, ils avaient un rêve. Et moi, je les encourageais à réaliser ce rêve. J'ai dit, ils peuvent le faire. Il faut surtout le garder. Et là, ils ont eu un sourire, une lumière, en fait. Et moi, ça me faisait mal au cœur de les voir... de les voir tristes au départ, ne pas pouvoir réaliser leurs rêves. Et par rapport à toute l'accessibilité des personnes handicapées, bon, c'est vrai qu'il y avait vraiment du retard. Et moi, je vois que c'est très... Au niveau de l'emploi, ils ont du mal à embaucher. Au niveau des aides financières pour les personnes handicapées, ce n'est pas encore au point. Donc, vous voyez, il y a énormément de travail à faire, mais bien sûr, on m'a demandé d'y revenir ultérieurement.
Donc évidemment, l'aventure continue, on te suivra là-bas dans tous tes combats. Tu disais qu'en Corée du Sud, évidemment, il y a plus de difficultés pour des personnes handicapées à accéder à des titres de Miss, par exemple. En France, tu as été la première sourde à pouvoir accéder à ce concours et à ce rang de première dauphine. Je crois que tu avais vraiment l'espoir que les années suivantes, on continue de pouvoir intégrer les personnes sourdes. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Tu as l'impression que c'est resté un peu un coup d'épée dans l'eau. T'aimerais que ça devienne plus normal et que la place des personnes handicapées, d'une manière générale, soit plus grande dans des élections telles que celle de Miss France, par exemple.
Oui, en fait, moi, ce que j'aime pas trop, c'est de faire deux élections avec deux particuliers. Exemple, une élection de Miss normale, entre guillemets, une élection de Miss handicapée. Moi, ce que je souhaitais, c'est avoir cette mixité. Par exemple, les Jeux Olympiques, c'est pareil. Par exemple, il y a un Jeu Olympique normal et valide ou un Jeu Paralympique, vous voyez. Et vous voyez, au niveau de la médiatisation, on a tendance à plutôt à filmer les Jeux Olympiques valides. Et alors qu'en fait, les personnes handicapées, que ce soit dans le monde des Miss ou que ce soit dans le monde du sport, ils ont une compétence et c'est important de voir cette compétence. La preuve, dans l'élection de Miss France, j'y ai participé et je remercie bien sûr le comité Miss France de m'avoir autorisé à pouvoir accéder à cette élection. Et moi, ce que je souhaite, c'est pareil qu'aux Jeux Olympiques, qu'il y ait cette égalité de chance.
Alors, on aura peut-être des nouveautés, puisqu'on le sait, il y a beaucoup d'évolutions en ce moment dans l'univers des Miss France. La petite question simple, sans créer la polémique, sur ce grand changement, le départ de Geneviève de Fontenay et les modifications avec le groupe Endemol, comment tu vis les choses, toi? Tu étais dans cette grande époque, on va dire, qui restera sans doute emblématique de Geneviève de Fontenay. Quel regard tu portes sur ces guéguerres aujourd'hui au sein du comité Miss France?
Oui, c'est vrai, tout cet ensemble, toute cette polémie, moi je trouve que c'est dommage. Avant, ils s'entendaient bien. Moi, je disais, l'élection de Miss France avait sa notoriété et c'était très important. Alors maintenant, une fois qu'il y a eu cette polémique, moi je préfère pas m'engager dans cette polémie, je préfère laisser leurs problèmes et voilà. Bon, c'est vrai, je trouve ça dommage que ça arrive, mais bon, c'est le cas, c'est le cas.
En espérant que ça ne tue pas le rêve, voilà, et qu'il reste le rêve avant tout pour toutes ces jeunes filles qui, comme toi, voudront postuler, ils postulent encore actuellement pour la prochaine élection du mois de décembre. Alors, on referme les Miss et on ouvre le chapitre du cinéma, puisque ça a été l'événement, on en a beaucoup parlé en Limousin et sur cette antenne notamment. Tu as donc participé à ton tout premier film sur grand écran, L'amour c'est mieux à deux, c'est le titre de ce film réalisé notamment par Dominique Farrugia avec Clovis Cornillac, Manu Payet, Virginie Efira, entre autres. très très joli succès en salle, plus d'un million de spectateurs, tous les films ne le font pas, donc ils ont été nombreux à pouvoir te voir au cinéma. Comment t'es arrivé dans ce projet et quels souvenirs tu gardes à la fois du tournage, parce que là aussi il fallait s'intégrer à une équipe, et puis de cette grande aventure du cinéma d'une manière générale?
C'est vrai, durant toute mon enfance, je rêvais de participer aussi au cinéma en tant qu'actrice. Et bien sûr, on m'avait envoyé un mail pour participer à un casting. Et moi, tout de suite, j'étais impressionné. J'ai dit, bien sûr, je vais pas dire non. Donc, je suis allé sur place à Paris et on m'a évalué et ils ont accepté que je participe à ce tournage. Et lui-même, Dominique Farrugia, il est vraiment quelqu'un de formidable et très gentil. Lui-même aussi, il a un handicap et comme moi aussi je l'ai, donc on arrive à se comprendre. Et donc en fait, ensemble, comme nous avons la même vision de faire défendre la cause des personnes handicapées de manière générale, alors grâce à l'intermédiaire du film, on pourra montrer que les personnes handicapées ont des compétences. Et puis, durant les tournages, les meilleurs moments que je garde, c'est les échanges en langue des signes. Je voyais par rapport à mon équipe qui apprenait quelques notions de la langue des signes, et on a passé des super moments. Alors, comparant à l'élection de Miss France, toutes les filles, en fait, sont très réservées, comment dirais-je, nous avons cette compétition entre nous, et donc on en manque d'ouverture. Franchement, j'ai dit, durant le tournage, ça a été vraiment des moments de rêve et c'était des moments de joie. Et Dominique Farrugia m'avait même dit que à l'issue de ce film, j'aurais un autre rôle, un autre film à jouer, et cette fois-ci je jouerai en rôle principal. Donc à voir.
À suivre donc. Alors justement, on va terminer cette émission avec tes loisirs et dans un instant, mais aussi tes projets, puisqu'on était dans le cinéma. Est-ce qu'il y a des choses déjà, des pistes qui sont déjà prêtes, cinéma, pourquoi pas télévision, musique, autre? Il y a des choses un petit peu sur le feu sur lesquelles tu réfléchis en ce moment?
Oui, en fait, mes projets, en fait, donc déjà le cinéma, aussi, bon, les défilés, j'ai quelques dates encore, des défilés de robes de mariée à Paris, etc. Et puis, je suis ambassadrice de Samsung, donc je travaille avec eux pour les associations des personnes sourdes. Je continue à dédicacer les livres et donc il y a parfois des petites présentations pour les associations. Bon, c'est vrai, je me déplace assez partout en France, donc voilà.
Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on reverra Sophie au cinéma? Il y a déjà un film plus ou moins prioritaire sur les autres?
Oui, au fait, plus tard, il y aura d'autres films, mais pas pour l'instant. Déjà, là, le film est au cinéma, donc qui laisse se terminer, mais là, le scénariste, il essaie de faire un nouveau film, et donc il faut attendre encore du temps pour pouvoir le faire.
Il va y avoir la sortie du DVD aussi du film dans quelques temps, et ce qui sera peut-être... On va surveiller d'ailleurs si les sous-titres français sur français seront présents sur le DVD. Je pense que ce serait important pour toi de voir ce film en français sous-titré, parce que souvent les films étrangers sont sous-titrés en français, pas forcément ceux dans notre langue. Ça aussi c'est un problème.
Oui, c'est vrai. Putain, je vous informe, mais merci de me le rappeler, que Dominique Farrugia, il essaie de se battre avec les différents producteurs au cinéma partout en France, de mettre en place le sous-titrage dans les salles de cinéma, mais il y en a beaucoup qui ont refusé. Et bon, bien sûr, j'ai été invité un peu partout en France, et j'ai vu, ça fait 5 fois que j'ai vu mon film, et à 5 endroits, c'est toujours pas sous-titré, donc j'ai toujours pas vu mon film entièrement sous-titré en français. Donc Dominique Farrugia m'a dit qu'il avait déjà fait des textes de sous-titrage adaptés aux personnes sourdes et malentendantes. Donc une fois la sortie de DVD, donc il est forcément sous-titré, donc c'est sûr et certain. Bien sûr, prioritairement, il m'enverra un DVD en copie pour moi, pour que je puisse au fait le montrer aux membres de la Maison des Sourds qui, eux, n'ont pas vu encore.
Voilà, malheureusement qu'ils auront un peu de décalage, mais ça, si le DVD rattrape un petit peu les choses, ce sera déjà une première chose. On va terminer donc dans un instant avec un cadeau pour nos auditeurs, et en te remerciant, Sophie, d'avoir été avec nous. Un mot sur tes loisirs. Est-ce qu'il te reste un petit peu de temps à côté de toutes ces interviews, de tous ces voyages, de tous les combats que tu mènes pour faire d'autres choses? Je crois que tu étais assez accro à la Nintendo DS, natation, bowling, tout ça.
Oui, bon, les loisirs, j'ai quand même du temps. Je joue au bowling avec mon avec Davy, donc ou être avec des amis. Donc en fait, c'est un des moments de loisirs. S'il y a le soleil, ben je me baignerai volontiers.
Le soleil est arrivé, donc la bonne nouvelle, c'est qu'enfin on va pouvoir profiter de l'été. Et puis tu es une passionnée aussi des animaux, je crois, qui compte beaucoup dans ta vie. Et voilà, je pense que quand on a un handicap, ils sont très apaisants aussi. Je crois que ça fait partie des êtres indispensables pour les personnes handicapées.
Oui, parce que les animaux, en fait, c'est important, parce que durant toute mon enfance, voir que j'étais sourde, et donc c'est vrai, c'est pas facile, mais durant toute mon enfance, j'ai eu 8 chats, des tortues, des lapins, un peu tout, des poules, et voilà, j'ai toujours adoré les animaux, et donc, comme moi, je vis avec mon compagnon maintenant, pareil, nous avons deux chats, et donc, c'est vrai, aimer les animaux, c'est agréable, et ça peut tenir compagnie avec les personnes handicapées.
Bon, pas de problème de voisinage avec tous les animaux, hein. Bien évidemment, que des voisins sympas, donc.
Bon, non, c'est bon, il n'y a pas eu de problème avec le voisinage.
Eh bien, en tout cas, un grand merci, Sophie, d'avoir participé avec nous à cette émission Studio Magique. C'était la toute dernière émission de la saison, donc on était ravis de la passer avec toi, avec Davy, et que ce soit une émission limousine. Donc, ça nous fait un grand plaisir. On va saluer notamment tous les Saint-Géniaux qui nous écoutent, parce que je sais que Magique, la radio, est très écoutée là-bas, et ça leur fera sans doute plaisir d'avoir pu t'entendre ce soir sur l'antenne. Et juste avant de nous séparer, tu as en plus un petit cadeau sympathique pour nos auditeurs, c'est ton livre Miss et Sourde aux éditions Le Duc. Ce livre, tu as le plaisir de l'offrir aux 3 personnes les plus rapides au standard, et en plus, ils auront le plaisir d'avoir le livre dédicacé à leur prénom. Donc un grand grand merci à toi pour ce cadeau. On va te souhaiter plein de bonnes choses, on espère que ton combat sera mené de la plus belle des façons, que tu seras bien entendu en tout cas par tout ce que tu as à dire, et puis on n'hésitera pas à réouvrir les portes et les micros de Magique la Radio pour te permettre de nous rejoindre très bientôt. En tout cas, merci mille fois à tous les deux d'avoir été avec nous, et à très vite sur Magique la Radio.
Merci beaucoup, merci de m'avoir écouté.
À bientôt.
Merci.